France Inter.
L'invité au carré, aujourd'hui,
Alain Bougrain-Dubourg, président de la Ligue pour la protection des oiseaux.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
La tourterelle des bois est l'un de ces oiseaux dont la présence tient d'abord à un son. Paul Géroudet, l'un des plus grands ornithologues francophones, écrivait en 1956 ce son roucoulement et doux, profond, rythmé, un appel presque souterrain qui semble se confondre avec la lumière des lisières. Pour lui, la tourterelle des bois ne se montre jamais entièrement, elle ne se livre qu'à demi. Dans les années 1960, Henri Couturier décrivait le même oiseau comme sauvage et prudente, un être sensible aux dérangements qui fuit l'approche humaine bien avant d'être vu et dont l'appel circule sous les frondaisons comme un souvenir d'été revenu. Cette sensibilité extrême fait partie de l'identité de l'espèce, une présence offerte, jamais imposée, toujours suspendue à l'équilibre du milieu. Buffon, au XVIIIe siècle déjà, insistait sur cette affinité pour les lieux calmes. La tourterelle aime les lieux solitaires et les ombrages tranquilles où son murmure prolongé se mêle au frémissement des feuilles. Le naturaliste Pierre-Paul Grasset soulignait enfin, quant à lui, la finesse de son allure, une silhouette élancée, une tête légère, un port d'ailes nerveux, une grâce naturelle et une vivacité adaptée aux paysages chauds, ouverts et variés. Cette constance des regards naturalistes dit à quel point l'oiseau a marqué l'histoire de nos campagnes. Ainsi, la tourterelle des bois, l'oiseau qui ne se livre qu'à demi, n'apparaît plus comme un simple habitant discret du printemps, mais comme un symbole fragile, celui d'un paysage rural diversifié, que chacun des auteurs à sa manière a décrit avant qu'il ne commence à s'effacer. Bonjour Alain Bougrain-Dubourg.
Bonjour Mathieu.
L'affaire des tourterelles des bois, c'est l'un de vos combats les plus emblématiques.
Oui, c'est le combat de l'LPO et d'autres. 20 ans de combat pour faire respecter le droit. Vous indiquiez à l'instant que la tourterelle des bois aime la tranquillité. Le problème, c'est que quand elle remonte d'Afrique, vers la fin avril, début mai, elle est obligée d'emprunter un corridor qui s'appelle le Médoc. D'un côté, l'océan, de l'autre, la Gironde, qui la conduit à traverser pour aller se répandre et donner la vie un peu plus haut, non seulement en France, mais en Europe. Et c'est pas la tranquillité, ce sont des pylônes avec des milliers de chasseurs qui attendent l'oiseau en question. Et il se passe une chose singulière, c'est que quand elle a peur, la tourterelle, elle plonge immédiatement au ras de la canopée pour être protégée. Elle a peur de quoi ? Du faucon, évidemment, du rapace. Mais dès qu'elle a peur, elle plonge. Et le problème, c'est qu'elle se retrouve au milieu, au niveau en tout cas, d'un barrage de feu. Et depuis les années 70-80, il y avait pas loin de 70 000 tourterelles qui remontaient d'Afrique. 30 000 d'entre elles restaient au tapis,
presque étaient la moitié,
abattues, hein. Alors que la chasse était fermée.
Ouais.
On ne coupe pas son blé en herbe. C'est le code rural du reste de nos anciens qui avait dit qu'on ne chasse pas au printemps. Et pourtant, ça a duré 20 ans.
Donc le Médoc, ça a été le lieu de votre combat. Hein.
Ça a été le lieu du combat de la LPO, ouais, et d'autres, mais avec des peurs. Je le dis,
oui,
avec
parce que
des violences.
Les balles de fusil sont passées très près, quand
oui,
même.
Oui, c'est juste. Et puis, les menaces de mort, et puis les violences, et puis tant de choses. Et pourtant, on a eu des ambassadrices et ambassadeurs de qualité. Brigitte Bardot, Sophie Marceau, Hubert Rive, Théodore Monod nous ont accompagnés sur le terrain.
On va écouter un extrait d'un reportage en 1991, dans le Médoc précisément. Théodore Monod est là, Brigitte Bardot et Sophie Marceau, qui a 24 ans à l'époque.
On n'a pas pu avancer, ce sont les braconniers qui ont le droit ici, qui ont la raison. Il y a une corruption totale de la part du gouvernement, du préfet, de la police donc. Et on s'est dit, mais est-ce que c'est en France qu'on vit ? Enfin, c'est pas possible.
On n'a pas le droit. Nous sommes en train d'essayer, nous, ici, de faire appliquer une loi française et européenne qui n'est pas appliquée dans notre pays, la France.
Voilà, Brigitte Bardot, juste avant Sophie Marceau, tout le monde planqué dans la voiture, hein, vitres fermées, sous le bombardement d'œufs pourris.
Oui, et de violences et de menaces. Et je vais vous dire, je suis très ému d'entendre ces propos, parce qu'à l'époque, j'ai tellement pensé qu'on n'y parviendrait pas, qu'à un moment, je le dis sans être plus glorieux qu'un autre, mais j'ai pensé qu'il fallait que je m'immole. À l'époque, ça se faisait beaucoup.
Vous auriez été capable de le faire ?
Oui, j'étais à deux doigts de le faire.
C'est vrai ?
Oui, parce que je me disais, si jamais un mec se fout le feu, ils n'auront pas l'indécence de poursuivre. Je ne le crois pas. Et donc, je m'étais organisé, préparé à ça.
Pour la Tourterelle des Bois ?
Pour une cause, oui, parce que nous étions révoltés. Et je me disais que je ne trouvais plus d'issue. Il n'y avait plus de possibilités. Ça, c'en était une qui, à mon avis, aurait mis un terme à ce braconnage, parce qu'encore une fois, c'était interdit.
Qu'est-ce qui vous a fait renoncer ?
Renoncer un jour qui pousse l'autre, et puis peut-être le manque de courage, mais j'étais assez préparé à cela, et puis surtout, un préfet qui est arrivé, qui est devenu un ami, Jacques Géraud, et qui croyait que c'était une tradition, et qui m'a demandé de le rencontrer. Je lui ai expliqué l'histoire, il m'a dit « Moi, je suis républicain, le droit s'appliquera en Médoc comme ailleurs », et en 3 ans, il a mis un terme à cette chasse.
Alain Bougrain-Dubourg, vous êtes un jeune homme de 77 ans.
Oui.
Si vous deviez dire ce qui résume le mieux ce que vous avez fait de votre vie durant ces 77 années, ce serait quoi ?
Oh, peut-être Saint-Augustin m'inspire quand il dit « on perd moins à se perdre dans sa passion qu'à perdre sa passion ». J'ai été habité par une passion, la découverte des animaux, j'ai eu la chance d'être curieux de nature et j'ai rencontré des gens admirables qui m'ont fait confiance, qui m'ont pris sous leur aile et je pense que c'est tout le bonheur que je souhaite à tous les citoyens, de se lever en se disant quel bonheur, même lorsqu'on vit un combat.
J'ai l'impression que vous l'êtes toujours autant curieux d'ailleurs. Et c'est vrai, on le sent dans la discussion qu'on a eue juste avant de prendre le micro. Il y a toujours cette énergie incroyable, cette rage aussi, cette colère.
Oui, il y a deux choses qui m'animent. C'est la rage, la colère, parce que malheureusement, et je pourrais vous en donner bien des exemples, je constate qu'on se comporte à l'égard du vivant qui nous entoure de manière indécente, et respecter le bien-être animal, respecter les espèces qui s'estompent, ça n'est pas dénaturer l'homme, ça n'est pas retirer des privilèges à l'homme, c'est simplement se comporter dignement avec un minimum d'éthique à l'égard des plus faibles, c'est le vivant qui nous entoure. Donc il y a la rage face à cette réalité, et puis il y a un enthousiasme, une convivialité admirable que je rencontre dans l'univers des amis de la nature. Voilà. Donc, qu'on s'aime, qu'est-ce qu'on est heureux. Vous savez, on dit toujours, ah, ils sont en train de gueuler, ils font de la procédure. Mais nous, notre bonheur, c'est de voir un coucher de soleil et puis de toucher l'autre à côté pour savoir si on rêve pas tellement c'est beau.
On va évoquer pendant cette émission votre engagement pour la biodiversité, parce que c'est l'objet aussi d'un livre, La biodiversité pour les nuls, que vous publiez chez First Edition, que vous avez dû offrir à plein de politiciens et politiciennes.
Le président Macron.
C'est vrai. Ah ben c'est bien. Il a accusé
il
réception.
Il a de l'humour. Maintenant, j'espère qu'il va le lire.
C'est vrai. On va d'abord revenir aux racines de votre vie, Alain Bougrain-Dubourg. Vous racontez qu'enfant, vous étiez un petit Parisien timide, habité par le monde animal, bien plus d'ailleurs que par vos camarades. Comment ce lien avec le vivant, justement, s'est construit pendant ces premières années à Paris?
Alors à Paris, j'avais pour horizon les pigeons de Paris, donc ouais. C'était un peu limité. J'étais rapidement, à l'âge de 10 ans, envoyé en pension à La Rochelle, au lycée Eugène Fromentin, plus de 170 pensionnaires. Alors je ne vais pas dire que c'était comme en Angleterre au 19e siècle, mais enfin bon, quand vous sortez...
La douche était froide ?
Oui, elle était froide, franchement. Et il se trouve, c'est les hasards de la vie, que juste à côté du lycée, il y avait le Muséum d'Histoire Naturelle. Et moi, j'ai été me réfugier, parce que j'aimais bien les animaux, dans ce muséum, et là j'ai découvert l'exotisme à ma porte. Il y avait la girafe du pacha d'Égypte offerte à la France, qui avait marché de Marseille jusqu'à Paris pour rejoindre Buffon et tout ça. Bon, mais c'était une histoire mais prodigieuse. Moi, je regardais la girafe, elle me regardait un peu méprisante avec ses yeux de verre. Bon, et puis plus loin, il y avait un vivarium avec des cérastès sur des vipères à cornes du désert. Et là, je partais au Sahara. Ouais. Voilà. Bon,
donc au point de vouloir constituer votre propre musée.
Je suis pas très fier, mais ça a été assez déterminant. Oui, mes parents avaient une maison dans l'île de Ré, je les voyais très peu, je les voyais 4 fois par an, et je ramassais sur la plage déjà des oiseaux mazoutés, un bout de crabe, que sais-je encore, et j'accumulais tout ça en mettant des noms pseudo-latins. Et un jour, j'ai considéré que pour que ce musée, mon laboratoire, soit digne de ce nom, il me fallait une pièce maîtresse, et ça ne pouvait être qu'un crâne d'Homo sapiens. Bon. Alors, je ne suis pas très fier,
mais vous l'avez
ça
trouvé
a été déterminant. Ouais, dans un petit village en Charente-Maritime avec un pote. Et comme j'ai été élevé chez les jésuites, j'ai quand même eu des remords.
Mais qu'est-ce qu'il faisait, ce crâne?
C'était une fosse commune. Ouais. Hein. Je savais qu'il y avait une fosse commune. Vous ouvrez le truc, et puis au milieu de chaussures, de trucs, de vertèbres. Et voilà. Mais une fois que je l'ai mis dans un seau avec de l'eau de Javel, en me disant que la semaine suivante, je mettrais Homo sapiens et je pourrais le présenter dans entre eux. J'ai vraiment eu des remords. J'ai écrit à mon père qui m'a répondu très violemment qu'avec l'éducation que j'avais reçue et tout, il m'a dit qu'il fallait que je repose au crâne où je l'avais pris, ce qui au passage était un peu con parce que je m'étais pas fait gauler à l'aller. Ouais. Bon, j'ai gardé le crâne, il m'en reste des morceaux du reste. Mais surtout, qu'est-ce que vous faites quand vous avez 12 ans et que d'un seul coup, votre père est contre vous, le bonheur de ce futur musée s'estompe, vous tombez en sanglots. Et c'est là que la vie est étrange. Il y a un préparateur du muséum qui m'avait vu dans les couloirs, qui a traversé la rue, qui m'a dit « Mon petit gars, qu'est-ce qui t'arrive ?» et tout. Je lui ai dit « J'ai voulu faire un musée, j'avais mon crâne. » Je lui raconte mon histoire. Il me dit « Allez, viens. » Je la fais courte, mais il m'a emmené dans les coulisses du muséum de La Rochelle. Il a ouvert une armoire d'angle. Et d'un seul coup, je vois une tête qui flottait dans le formol. C'était le dernier décapité de La Rochelle. Il pensait me faire plaisir. Moi, j'étais effrayé. Ouais. Mais voilà. Et alors après.
Mais ça a scellé votre destin, cette histoire.
Complètement, parce que je suis devenu l'enfant chéri du muséum. Ils m'ont appris la taxidermie. Ils m'ont appris à baguer des oiseaux. Je les accompagnais. J'avais 12 ans, 13 ans. Incroyable. Donc j'étais nul à l'école, mais je partais avec les prépas. Je ramassais des vipères, des trucs comme ça.
Votre famille, Alain Bougrain-Dubourg, est marquée par une lignée illustre et exigeante. Vous êtes descendant de D'Artagnan, paraît-il.
Oui, j'ai quelques gouttes du côté de mon père, ma mère.
Ça, c'est votre portable, c'est incroyable. Alors, le portable oiseau d'Alain Bougrain-Dubourg, en direct.
Ça, c'est ma fille qui m'appelle. Bon, on verra ça plus tard.
Vous direz à votre fille que tout va bien, que vous êtes un petit peu occupé et que vous la retrouverez. Voilà, bon, on a pu entendre votre sonnerie. C'est quel oiseau, d'ailleurs?
C'est un panachage.
Très bien.
Voilà, ça existe aussi.
Donc, parlez-nous de votre famille, Alain Bougrain-Dubourg. Côté paternel, l'arrière-grand-père est banquier, le grand-père général, votre père... ancien député, plus jeune député de l'Assemblée, résistant et créateur du groupe des Républicains indépendants.
Maman aussi, parce qu'on oublie dans les résistants, c'était un couple. Et papa était illustre, s'est engagé de façon admirable, mais on a tendance à oublier les femmes qui dormaient également sur les munitions, etc. Enfin, bon,
dans quel réseau ils étaient?
Ils étaient en Saône-et-Loire, et ils faisaient notamment de la correspondance avec la Gironde, du côté de Sauveterre de Guyenne, par là-bas.
Votre père était particulièrement rosse avec vous?
On était de l'éducation dure, oui. On a eu la chance de vivre du bon côté du trottoir, c'est-à-dire j'avais des gens qui s'occupaient, les enfants étaient pris en charge de façon remarquable, mais on payait cher nos privilèges.
Ouais. En quoi cet héritage familial a soit pesé, soit stimulé d'ailleurs votre parcours?
Je ne suis pas capable de le dire. Qui peut le dire? J'ai souvent pensé à l'hypothèse d'une guerre. Et j'ai dit à mon père, est-ce que je serais résistant ou collabo? Et qui peut répondre à cela? J'ose imaginer que je serais davantage résistant que collabo, mais mon père, qui était recherché par la Gestapo, etc., a une réponse admirable. Il m'a dit, en fait, on était jeunes, on a pleuré pour le drapeau français, mais on était jeunes et inconscients en même temps. Faire péter des trains, risquer la Gestapo, c'était une aventure. Et je trouve assez honorable de dire qu'il y a la folie de la jeunesse qui a permis de générer une résistance admirable et républicaine.
Ouais. Est-ce qu'il y a une forme de résistance qui se remet en place aujourd'hui, à votre avis?
Elle est très différente. D'abord, les risques ne sont pas les mêmes. Ils étaient violents et immédiats à l'époque, la Gestapo. Aujourd'hui, ils sont violents,
mais oui, c'est ça.
Et à moyen terme, on ne mesure pas, quand on voit la COP 30 qui se décline aujourd'hui, et finalement la forme de mépris que la planète a pour la priorité, quand on voit le mépris qu'on a à l'égard de la biodiversité, le vivant qui nous entoure. Et vous avez quand même, ça c'est très singulier, du début du 21e siècle, les scientifiques, plateforme, le GIEC pour le climat, l'IBES pour la biodiversité, qui de concert, tous les scientifiques du monde disent qu'il faut agir avec la même urgence dans ces deux dossiers essentiels. Mmh. Et juste un exemple, sans être long, on oublie la COP17. C'est une espèce de petite merdouille qu'on voit à peine dans un microscope et qui a mis la planète à genoux. Tout s'est arrêté, quelles que soient les économies, quels que soient les systèmes politiques, quelles que soient les stratégies, les forces en présence. La planète s'est arrêtée à cause d'un virus. Alors on a dit plus jamais ça, mais on recommence comme en 14. Dans le discours de politique générale du Premier ministre, il n'a pas prononcé le mot ni climat ni biodiversité.
Bon, ça, c'est un grand classique.
Est-ce que ça écorche la République? Oh ben non, quand même. Il y en a au moins le cité du reste.
Non, mais ces derniers temps, enfin, oui. C'est des mots qu'on emploie beaucoup. Hein.
Oui.
Allez, Alain Beaugrain-Dubourg, on va vous retrouver dans un instant, parce que derrière le naturaliste solitaire des débuts, bientôt un visage familier de millions de téléspectateurs, celui d'un infatigable combattant pour la biodiversité. C'est une autre vie qui commence pour vous, qui va vous propulser sur la scène publique. On en discute dans un instant.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Alain Beaugrain-Dubourg, notre invité au carré, et on va ouvrir ensemble le deuxième chapitre de votre vie avec l'homme qui va entrer dans l'arène médiatique. On entend en ce moment un générique que vous connaissez bien.
Terre des bêtes.
Ça, c'était en 1978 sur Antenne 2.
Oui.
Comment ce jeune passionné de reptiles et d'oiseaux s'est retrouvé tout d'un coup à la télé, invité par les grandes émissions de l'époque?
Parce qu'à l'époque, il y avait une chance formidable. Vous n'étiez pas obligé d'être journaliste, diplômé. Et puis, j'étais venu présenter ici un renard, là, un faucon cresserelle. Et puis, on m'a dit, Eliane Victor, qui s'occupait des programmes pour la jeunesse, est-ce que tu veux présenter avec Dorothée le mercredi après-midi? Et je me trouve propulsé, moi qui étais timide, comme c'est pas possible, devant les caméras.
À quel âge, donc?
J'avais, je sais plus, 22 ans, un truc comme ça, 20, ouais. Je sais plus. Du reste, Eliane Victor, je crois que j'ai été nommé à TF1, donc les visiteurs du mercredi, vers le mois d'avril et en juillet. Elle nous a convoqués, Dorothée et moi, en disant, écoutez, mes petits chéris, très paternalistes, maternalistes, bon, je vous aime beaucoup, mais vous êtes faits l'un et l'autre pour tout, sauf pour la télé. Donc, on va pas vous garder. Ouais. Et puis, y a Antenne 2 qui lançait notamment Patrice Lafont, 1 sur 5, avec les frères Bogdanov et d'autres.
Et donc, voilà, ensuite, vos émissions. Bondi. Donc, 1978, oui. Terre des bêtes. Un an avant, 1977, votre reportage sur les bébés phoques vous propulse là vraiment hein, dans l'œil du public, et c'est la rencontre avec Brigitte Bardot.
Voilà ce que c'est qu'un bébé phoque, et voilà ce qu'on tue par centaines de milliers pour la fourrure. Ces petites choses qui se laissent prendre comme ça, tout confiant, adorable. Il y a la mer qui appelle, et tu sais qu'il y en a encore un près de la mer là-bas, regarde. Ce que c'est mignon, ce que c'est mignon. Comment on peut les tuer, c'est dé- dégueulasse.
1977. Votre rencontre, c'est sur la banquise, vraiment ?
Oui, et de façon étonnante, parce que je voulais faire ce reportage sur le massacre des bébés phoques, et on m'a donné un numéro de téléphone qui était celui de la MADRAC. Je pensais devoir passer par une palanquée d'assistants et autres. Ouais. Et je suis tombé sur Brigitte directement, qui m'a dit « Mais j'aime bien votre émission. Oui, oui, ben d'accord. Je suis d'accord pour faire une interview quand on sera au Canada. » J'étais tellement ému que j'ai dit « Ben, rendez-vous au Canada. » Sans douter ni la date ni le lieu. Puis on s'est retrouvé à Blanc-Sablon, dans un petit village où il y avait là, mais la presse du monde entier, qui très rapidement s'est opposée à Brigitte, tout simplement parce que les autorités canadiennes avaient suspendu l'accès à la chasse pour pas qu'on puisse filmer. Ouais. Donc il y avait aucun hélicoptère et au bout de quelques jours, ben, la presse s'est retournée contre Brigitte. C'était douloureux. Ouais. Elle a eu beaucoup de mérite, beaucoup de courage.
Et vous avez 29 ans à l'époque quand ouais. vous vous rencontrez. Ouais. Elle est un peu plus âgée que vous. Ouais. Elle a plus d'une quarantaine d'années. Ouais. Et alors c'est coup de foudre sur la banquise.
Non, c'est pas comme ça. Non, j'ai trouvé. D'abord, j'étais pas admiratif de la personne qu'elle était sur le plan cinématographique. J'étais très ému par cette femme qui était malheureuse, c'était ma frangine, c'était ma copine, et c'est devenu mon amie pendant quelques belles années. Et on
votre amour, c'est devenu votre amour.
On peut le dire.
Elle est restée votre amie, mais...
Oui, on a vécu 7 ans ensemble, et on a partagé des silences merveilleux avec tous les chiens sur, à Saint-Tropez, sur les chemins de douane, etc. Ou des soirées où on refaisait le monde. Voilà, et
vous êtes toujours en contact avec elle ?
Oui, toujours, ouais. toujours. Je peux vous dire qu'elle va mieux après un moment difficile, mais voilà.
Ouais. Ses positions très polémiques sur l'immigration et l'islam lui ont valu plusieurs condamnations pour incitation à la haine raciale. C'est quoi votre position, vous, là-dessus, Alain Beaugrain-Dubourg ? Parce que vous êtes allé la soutenir au tribunal.
On m'a demandé de faire un portrait d'elle et j'ai dit qu'elle avait, elle était déterminée par sa cause première. En vérité, je voudrais pas être trop long, mais en fait, quand il y a eu cette affaire, sa plume a dérapé, je le dis, je lui ai dit du reste, peut-être je trouve pas les mots qui conviennent, mais quand j'ai témoigné, j'ai indiqué qu'elle était capable de rompre l'une de ses plus grandes amitiés de l'époque, qui était Jacques Chirac. Et Jacques Chirac n'a pas répondu à son appel quand il y a eu les présidentielles, alors que Mitterrand a réagi dans l'instant en disant « Ma chère Brigitte, je vous soutiendrai toujours ». Eh bien, elle était capable de rompre une amitié toujours pour une idée première qui était la cause animale. Voilà. Alors maintenant, sur la partie purement politique, moi, j'ai tellement vu Brigitte aider des petits vieux, aider des gens de toute nature et de toute race, qu'elle s'est laissée emporter, c'est vrai, par une certaine image de la France, probablement, qu'elle souhaitait et qui ne correspondait plus à ses valeurs. Je le regrette, je lui ai dit, j'ai même démissionné de la Fondation pour cette raison. Ça ne m'empêche pas de partager les mêmes valeurs dans ces combats.
Lorsque vous prenez la présidence de la Ligue de protection des oiseaux, c'est pour 3 ans.
Oui.
Et ça commence quand, cette histoire ?
Ben, il y a près de 40
oui,
ans.
Oui, c'est ça, vous y êtes encore.
Ben, j'y suis encore. Oui. Je pensais
qu'est-ce qui vous a retenu ?
Ni le temps, ni les compétences. Ben, d'abord, le premier combat, ça a été les tourterelles dont on a parlé. Ouais. Ça a duré 20 ans. Après, et je ne voulais pas quitter la LPO sans réussir ce combat. Après, il y a eu l'Erika.
99,
ça a été 10 ans de combat où on a initié l'idée du préjudice écologique. C'est la LPO qui l'a lancée. L'idée étant simple, c'est qu'on indemnisait le vivant commercial, c'est-à-dire les coquillages, les mancas ouais. pêchés, etc., mais pas le vivant non commercial, c'est-à-dire le phoque, l'oiseau ou la tortue. Et on s'est battu pour ça. Après, l'idée s'est élargie et le préjudice écologique est rentré maintenant dans le Code civil. C'est une grande fierté.
Oui, c'est une bataille contre Total. Il faut quand même rappeler aussi...
On a été jusqu'en cassation
celui
contre
qui est à l'origine.
Oui, tout à fait.
Quand vous voyez justement Patrick Pouyanet, le patron actuel de Total Énergie, à la COP30 de Belém, parmi tous les lobbyistes du pétrole et du gaz, ils sont plus de 1600, ils ont été encore comptabilisés aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous donne
ça
comme
sentiment ? Ça illustre de façon scandaleuse, je le dis clairement, le poids des lobbyings et l'indifférence de l'exécutif à l'égard du fondamental et de l'intérêt général. Non, c'est inacceptable. Alors, pour autant, je donne toujours, enfin, je veux donner la possibilité à chacun de pouvoir changer. Mais Total l'a bien compris, qui sont pas dans la bonne ligne droite, mais simplement, ils se donnent du temps. Et pendant ce temps, ils accumulent des profits.
Non, mais la présence de ces lobbies dans une COP qui parle du climat, c'est quand même totalement
C'est surréaliste,
délirant, non ?
Mais c'est la rançon de la démocratie, j'ai envie de dire. C'est pas tant qu'ils soient présents. Ce qui est terrible, c'est qu'on les écoute et qu'ils aient autorité. Vous n'avez pas un ministre de l'Agriculture en France qui serait nommé sans l'aval de la FNSEA. On est dans la même configuration.
Vous disiez avoir envoyé votre livre qui sort sur la biodiversité à Emmanuel Macron, peut-être à Sébastien Lecornu aussi, que vous connaissez bien.
Oui, je l'avais prévenu du reste, et Sébastien Lecornu, je lui ai proposé 10 mesures, chic et pas cher, pour faire une belle biodiversité en France.
Ah oui. Et alors c'est quoi vos mesures?
Alors moi j'ai des trucs très simples. Par exemple, quand vous prenez une espèce qui est ésode, espèces susceptibles d'occasionner des dégâts sont les nuisibles, en fait. Si une espèce rentre dans cette catégorie, le renard par exemple, il en prend d'office pour 3 ans. En revanche, vous voulez faire un moratoire pour une espèce, ça ne sera qu'un an renouvelable. Je dis 3 ans pour les nuisibles, on pourrait mettre 3 ans aussi pour les espèces protégées. Voilà un exemple. Autre chose, vous avez des consultations publiques qui s'imposent quand un ministre va prendre un arrêté. Eh bien, le plus souvent, c'est le cas actuellement avec les civelles, la situation dramatique des anguilles qui disparaissent. Il y a eu une consultation, 97% des 5000 personnes qui ont répondu sont opposées à l'idée de poursuivre le prélèvement de 55 tonnes de civelles, quand même. Eh bien, le ministre est s'assied dessus. Eh bien, je propose que à 70%, on demande au ministre de revisiter sa copie. Et je dois dire que c'est un mépris total de la démocratie que de laisser croire aux citoyens qu'ils auront une écoute, alors qu'on n'en a rien à foutre.
Mais Alain Beaugrain-Dubourg, vous avez rencontré à peu près tous les présidents de la République, tous les premiers ministres. Vous avez encore rencontré récemment Mathieu Lefèvre, le nouveau ministre délégué chargé de la transition écologique et de la biodiversité.
Qui fait sa première sortie pour aller défendre les palombières.
C'est sa première sortie.
Oui, biodiversité, oui.
Ouais. Donc il va défendre les palombières. C'est-à-dire
il faut
dire ce que c'est. C'est des chasses.
Alors, ce sont des chasses au filet, notamment traditionnelles, dans les Landes et ailleurs. Et l'idée, c'est de leur dire qu'il va intervenir avec la ministre de la transition écologique auprès de Bruxelles pour assouplir la directive oiseaux. C'est scandaleux. Alors qu'on a dans le même temps des espèces, je viens de parler des anguilles, qui sont aussi rares que les rhinocéros de Java et qu'on va continuer de prélever.
Et il vous consulte pour ça, le ministre ?
Ben, je crois qu'il m'a appelé, probablement pour pouvoir dire j'ai eu la LPO, ils sont informés pour que je ne le découvre pas par la presse. Je trouve ça, j'ai dit que c'était une faute politique et qu'il se tirait une balle dans le pied. Maintenant, il fait ce qu'il veut.
Hein. Ouais, et le président de la République sur ces questions-là, parce que vous le rencontrez aussi.
Oui, j'ai rencontré Emmanuel Macron souvent. Je crois que... alors, quand je parle avec lui, il m'entend, hein, mais derrière...
Il vous entend, mais est-ce qu'il vous écoute?
Non, il n'écoute pas, à l'évidence. À l'évidence, je lui ai parlé à l'UNOC des anguilles. Quand on s'est beaucoup battu pour suspendre les pêches en période sensible généraient des captures dans le golfe de Gascogne, par exemple. Et je me souviens, il m'a dit, mais Alain, que vont faire les Espagnols? Ils vont venir pêcher chez nous et tout. Bon, finalement, nous avons gagné non pas par la raison devant l'exécutif, oui, mais par le droit, en allant devant les tribunaux administratifs ou au Conseil d'État.
Votre propre père était homme politique aussi, oui, hein, on l'a dit, député. Qu'est-ce que ça vous raconte, vous, de la classe politique sur la question justement du vivant aujourd'hui ?
Alors moi, j'ai grandi sur les genoux des ministres et autres députés, et j'ai du respect globalement pour ces gens. Je pense qu'il y en a beaucoup qui s'investissent. Je suis pas de ceux qui disent tous pourris. Je crois qu'il y a des gens qui ont vraiment le sens du service public. Simplement, ils n'ont pas compris que la politique, c'était du moyen et du long terme. Et ils sont dans le court terme. La politique, c'est comme la nature. Il faut savoir planter une graine dont on ne verra jamais l'épanouissement de l'arbre. Alors évidemment, ce n'est pas très satisfaisant, peut-être. Mais c'est ça, le job.
Alain Bougrain-Dubourg, vous êtes notre invité au carré.
France Inter. La Terre au carré.
Tout de suite, je me dirige vers le professeur Monod. Vous rentrez tout juste de Mauritanie, de ce lieu privilégié. Si vous aviez à décrire le banc d'Arguin en quelques mots, qu'est-ce que vous diriez ?
C'est l'explosion de la vie animale. L'explosion des oiseaux en particulier, quand vous arrivez du désert, vous arrivez sur ces plages, ces vasières, ces îles, etc. Dans le désert, il n'y a rien, surtout en ce moment, c'est très sec. Et alors là, immédiatement, c'est la vie, la vie qui explose dans toutes les directions, avec, ils ont un chiffre, 70 000 flamants roses. En hiver, 2 à 3 millions de limicoles, de petits échassiers qui courent sur les grèves.
La voix de Théodore Monod, dans Terre des Bêtes, 1983, oui. Alain Bougrain-Dubourg, c'était un ami, ce naturaliste et explorateur. Il vous avait dit, Alain, il faut continuer de marcher.
Oui.
Qu'est-ce qu'il voulait dire par là ?
J'ai été le voir, il était à quelques heures de s'éteindre, et j'ai été bouleversé par son image. Il avait les lèvres gercées, comme s'il venait de traverser un nouveau désert. C'était la fatigue, c'était l'usure du corps, et il n'arrivait plus à parler quasiment. Et donc, je parlais pour lui en disant, tu sais Théodore, on a réussi telle ou telle chose. Et il me serrait le bras en guise d'acquiescement. Et puis à la fin, il a trouvé la force de me dire, voilà ce que vous avez dit.
Oui. Alain, il faut continuer de marcher. Pourquoi vous êtes aussi ému, Alain Bougrain-Dubourg ?
Parce que je l'aime.
C'était vraiment quelqu'un de très important, oui, pour vous ?
Il nous manque, ces gens. Des grands scientifiques. Bon, remplissez, Mathieu.
Mais non, mais je vous écoute.
Mais des grands scientifiques qui sortent de leur labo, qui ont le courage de mettre leur carrière sur la balance, parce que beaucoup l'ont payé très cher que de dénoncer des situations. Et avec cet humanisme formidable, il n'y a pas un mot de trop dans les propos de Théodore. Et il y a toujours une part d'espoir. Il y a la beauté qui est toujours, Victor Hugo disait, le beau est plus utile que l'utile, Théodore, oui, il était utile.
Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres figures, peut-être dans la nouvelle génération aussi, que vous admirez aussi ?
Moins, parce que moi j'ai eu la chance de connaître la génération des aventuriers. La planète était très grande encore à l'époque, j'ai été très proche de Paul-Émile Victor, de Haroun Taziev, bon, Cousteau un peu, mais il était pas rigolo, c'était pas le même.
Puis c'est une époque où on prenait l'avion sans se poser de questions,
voilà,
aussi.
Voilà, exactement. Et ces gens-là nous faisaient découvrir la planète. Donc, il y avait moins de médias. Donc, c'était des autorités formidables. On était amenés, évidemment, à les écouter, pas seulement à les entendre.
Votre actualité, c'est un livre, La biodiversité pour les nuls, chez First Edition. Cette biodiversité qui a basculé dans une crise qu'on peut comparer à celle des grandes extinctions. Hein. Quel est, selon vous, l'état actuel du vivant, s'il fallait comme ça...
Je vais vous donner un exemple, les mammifères que nous sommes. Actuellement, vous avez 67% des mammifères, c'est le bétail de l'homme. 30%, c'est l'homme. ça veut dire 97%, c'est l'homme et son bétail, il reste 3% entre l'écureuil et la baleine bleue. Mm-hmm. Donc c'est, on perd actuellement 20 millions d'oiseaux chaque année en Europe, on a perdu 800 millions en 4 décennies. Or l'oiseau est l'indicateur de l'état de la biodiversité, quand il est en nombre, c'est tout le cortège du vivant qui s'épanouit, et ça on ne le voit pas. Pourquoi on ne le voit pas ? Où on ne veut pas le voir, parce que contrairement au climat où on voit les effets pervers immédiats, les sécheresses, les inondations, la montée des eaux, etc., eh bien, pour le vivant, on peut se dire, on peut vivre sans l'outarde canepetière, le vison d'Europe ou la tortue d'Hermann. À quoi ça sert? On est dans l'univers utilitaire. Alors que moi, je plaide pour l'éthique, encore une fois, pour être au plus près du plus faible. Et le plus faible, aujourd'hui, c'est le vivant qui nous entoure.
En ce moment, donc, à Belém, la COP et les images de manifestants autochtones forçant l'entrée de la conférence de l'ONU sur le climat, qui, ces images ont déjà marqué les esprits. Reportage sur place de TV5 Monde.
Forcer le passage pour faire entendre leur voix.
Nous ne mangeons pas d'argent. Nous voulons que notre territoire reste libre. Mais les activités d'exploration pétrolière, minière et forestière se poursuivent. C'est une façon pour nous de défendre notre territoire pris en otage.
La marche pour le climat et la santé devant le site de la COP30 s'est terminée mardi soir par un face-à-face musclé avec les agents de sécurité de l'ONU.
TV5 Monde, donc, c'était cette semaine. Une scène assez rare dans ce cadre, hein, Alain Bougrain-Dubourg, de voir ces peuples autochtones là qui viennent défoncer les portes pour se faire entendre. Évidemment, dans une ville d'Amazonie, c'est là que se déroule cette COP, hein, au Brésil.
Bien sûr. Autre hommage à rendre, on en parle peu, celle des femmes. L'hommage à rendre aux femmes qui s'investissent. Et dans les COP, j'ai été à de nombreuses COP, Hyderabad et bien d'autres, Nagoya, etc. Et je voyais des femmes qui portaient la vie, qui se battaient pour défendre le vivant. Et du reste, on constate que sont les femmes comme Diane Fossé, comme
Jane Goodall,
qui ont été le plus loin dans les engagements, peut-être dans des lieux que les hommes n'auraient pas su assumer.
Mais c'est ces peuples-là qui se font entendre, qui vont vraiment aussi défoncer les portes pour accéder là où se passent les négociations, ces populations, elles sont première loge du changement climatique, de la déforestation.
Et c'est pour ça que l'indifférence qu'on leur porte est inacceptable. On est coupable devant les plus hautes autorités de la planète. Enfin, il y a un déni de moralité incroyable. Mmh. Voilà. Mais tout ça est bien compliqué. J'ai été voir, par exemple, les pygmées Baka au Cameroun, après deux jours de marche, etc. Bon, et j'ai trouvé des populations complètement isolées. Et donc, ils meurent assez tôt. Et j'ai été bouleversé par leur mode de vie, où les hommes allaient à la chasse et les femmes créaient les huttes. Et il y avait une fixation, une priorité, c'était les bébés, les enfants et les vieillards. Mmh. Je vous assure que je ne raconte pas de violon. Bon, je suis pas resté assez longtemps pour mesurer tout ça, mais j'ai vécu ça à leur côté. Et la question qui se posaient, parce qu'ils meurent vers l'âge de 40 ans, 50 ans maximum, est-ce qu'on doit les aider avec un accès aux médicaments et une forme de confort, ou est-ce qu'au contraire, ils peuvent continuer à vivre, comme c'est le cas, dans un épanouissement bouleversant que j'ai pu connaître à leur côté.
Comment vous gardez cet élan, malgré 40 ans, 50 ans de combat, comment vous arrivez à toujours nourrir la flamme, finalement, de cette colère, au fond?
D'abord, dans nos associations, il y a une grande convivialité. On a le partage, la passion, ce que j'ai indiqué, et puis il y a des témoignages de très généreux, très bouleversants, de gens qui disent « ne lâchez rien ». Donc je les écoute.
Ouais. Et qu'est-ce que vous diriez aux jeunes aussi générations qui s'embarquent dans le combat aujourd'hui? Vous, le vieux sage Alain Bougrain-Dubourg.
Le vieux sage. Moi, je les ai invités à voter utile. Du reste, je suis complètement apolitique. Et je crois qu'aujourd'hui, ils ont un autre mode d'expression. quand on voit les véganes, par exemple, c'est pas les enfants de la Fondation Bardot ou de la SPA. C'est des jeunes qui ont établi une relation particulière avec le reste du vivant. Ils ont entre 18 et 30 ans. Et je crois que la société bouge, mais les politique ne la voit pas bouger, parce qu'elle bouge d'une autre manière que celle qui est attendue.
Et vous gardez espoir quand même, malgré tout ce qui s'effondre autour de nous là aujourd'hui ?
On n'a pas le droit de ne pas garder espoir, sinon ça s'appelle la lâcheté, c'est-à-dire qu'on baisse les bras, et ça, il n'y en est pas question.
Merci beaucoup, Alain Bougrain-Dubourg. Pardon, c'est moi qui veux, voilà. Merci beaucoup à vous, et on renvoie sur votre livre, Biodiversité pour les nuls, ça sort aux éditions First.